7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, voyager loin de chez soi, mais entre soi. Voyager ou partir en vacances, c'est super, mais c'est encore mieux avec des gens qui nous ressemblent. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les touristes. Hôtels sans enfants pour ceux qui veulent faire la fête, séjours multi-activités pour les familles, hôtels halal pour ceux qui veulent prier, tourisme gay-friendly pour les couples homosexuels, tourisme vegan pour les défenseurs de la cause animale, et qui sait, bientôt, il y aura peut-être des destinations pour les bouchers et les éleveurs, afin qu'ils ne risquent pas de tomber sur des casseurs vegan. Alors voilà comment le business du tourisme répond maintenant à cette injonction paradoxale. Je veux me sentir à l'aise, loin de chez moi et surtout ne pas risquer de rencontrer l'autre. Est-ce un repli sur soi ou plutôt une réponse à la montée des intolérances? C'est la question qu'on se pose. On va en parler avec nos invités. Stacy Duclos, directrice de l'agence de tourisme Halal Travelmus. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Saskia Cousin, anthropologue à l'Université Paris Descartes, spécialiste du tourisme. Bonjour.
Bonjour.
Et également avec nous Didier Arino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme qui réalise des études et du conseil dans le secteur du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie. C'est là, ce sont des jours très actifs pour vous parce qu'il y a le salon du tourisme également.
Absolument, le salon du tourisme, l'IFTM Top Reza à Paris. Avec
pour tous les professionnels du tourisme.
Pour tous les professionnels du tourisme.
Et donc, l'occasion de comprendre toute la diversité des offres touristiques aujourd'hui. Et quant à vous, les voisins, dites-nous comment et avec qui vous aimez voyager. Avez-vous peur du regard de l'autre quand vous voyagez loin de chez vous? Comment vous adaptez-vous dans des pays où l'on ne vit pas comme vous? Appelez-nous pour partager au 33-1. 84 22 71 71. N'oubliez pas que c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp, donc gratuit. Et en fin d'émission, une autre forme de voyage nettement moins choisie. Nous ferons le point sur les conditions de travail des migrants au Qatar avec le récent rapport d'Amnesty International, notamment sur le chantier du mondial de foot.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Ouais, alors on fait tous partie de la même famille, enfin c'est à voir, hein. Pas quand il s'agit de voyager. Didier Arino, de plus en plus de gens voyagent, ça c'est sûr, et pas que pour le travail. Donc il y a de plus en plus d'offres et de plus en plus en fonction des profils des clients. C'est-à-dire, on n'est plus du tout 7 milliards de voisins, là.
Et non, on veut de plus en plus voyager avec des gens et aux côtés de gens qui nous ressemblent. On n'a jamais autant parlé de tolérance, mais en fait, dans la réalité du voyage, il y a de plus en plus d'intolérance. Il est vrai que c'est quelquefois difficilement compatible entre un tourisme religieux, un tourisme gay-friendly, des gens qui veulent manger de la viande, ceux qui sont anti-viande, ceux qui veulent se retrouver avec des gens d'une même nationalité. Et donc, on peut dire que c'est aussi le fait qu'il y ait le modèle ne soit plus un modèle unique, parce que pendant 50 ans, le modèle du tourisme, c'était un tourisme occidental, vers l'Occident, vers la Méditerranée, puisque ça représente 50% du tourisme, mais aussi vers d'autres destinations plus lointaines. À partir du moment où d'autres cultures se sont mises à voyager, à découvrir le tourisme, ils souhaitent que le modèle de leurs vacances soit différent d'un modèle qui était un modèle anglo-saxon, occidental. Donc, et puis, on est passé d'un tourisme de masse à un tourisme de niche où on a envie, dans ses pratiques, dans ses vacances, de plus en plus de vivre un concept de vacances. C'est-à-dire que la part de rêve, la part d'incertitude, la part de nouveauté, la part de surprise, on n'en veut plus. D'ailleurs, on voit tout sur Internet, on regarde tout, on sait à quoi ressemble un hébergement à l'autre bout de la planète, on est allé voir sur Google Earth.
Tous les autres touristes ont déjà posté les photos de la chambre, de la salle de bain, des toilettes.
Totalement. Et donc, par conséquent, cette dimension du voyage, le fait aussi d'être un peu secoué par ce que l'on voit, par une différence, tout cela, de plus en plus de touristes cherchent à l'apaiser. Et puis derrière, il ne faut pas se leurrer, Le tourisme, c'est un business et qui pèse quasiment 10% du PIB mondial. Et ce business, il attire les convoitises d'un certain nombre d'opérateurs du tourisme. Et certains s'engouffrent dans la brèche.
Par exemple,
pour essayer
le tourisme pour couples homosexuels, ils ont pour le moment moins d'enfants que les autres.
Oui.
Donc, ils ont plus de revenus aussi. Souvent, c'est typiquement la niche qui se développe aujourd'hui.
Alors, c'est une niche qui se développe, d'autant plus que souvent ce sont des habitants de grandes métropoles avec des revenus de plus en plus élevés. Compte tenu un budget vacances, en moyenne, le budget vacances des Européens, pour ceux qui partent en vacances, c'est un mois de salaire du foyer. Lorsqu'il s'agit de couples homosexuels, on peut avoir des niveaux de revenus qui permettent d'avoir jusqu'à deux mois, de l'équivalent de deux mois de salaire pour les vacances. Donc ce sont des multipartants à fort revenu. Et là aussi, il ne faut pas généraliser, tous les couples homosexuels ne vont pas dans des hébergements gay-friendly.
Il y a une association internationale du tourisme gay et lesbienne qui a édicté des règles. Il y a un Gay Travel Index 2017 qui publie la liste des pays qui sont gay-friendly. Globalement, c'est surtout sympa de voyager à Ibiza, San Francisco, à Mykonos, à Tel Aviv, dans des villes et des lieux où on est extrêmement ouvert d'esprit.
Oui, mais ça signifie quand même très concrètement, vous les avez résumés, qu'on a des lieux qui sont des lieux de plus en plus ciblés, assez connus en fait, et dans lesquels une communauté va se retrouver pour avoir des pratiques et des modes de vacances adaptés, quelque part pas très différents du mode de vie.
Mais
vous imaginez la confrontation qu'il y a entre...
Est-ce qu'on va dans un lieu pour être entre soi ou pour ne pas risquer... Notamment, là c'est le bon exemple pour les couples homosexuels, mais on en parlera pour le tourisme halal, pour ne pas risquer d'être confronté à des gens qui seraient désagréables avec nous.
Non, parce que justement dans ces sites et dans ces lieux de vacances, souvent c'est poussé à l'extrême de la revendication, qu'elle soit religieuse ou une revendication de pratique sexuelle ou une revendication comportementale. Il peut y avoir justement une opposition quelquefois. La minorité n'est pas toujours victime de la majorité. On peut très bien aller voyager dans le monde entier en se disant on va s'adapter au lieu de vie, aux pratiques et aux populations qui nous accueillent. Là, il s'agit d'au-delà. Ouais. On est très au-delà de ça. Souvent, c'est on veut un type de vacances qui corresponde à ce que l'on a décidé, comme on le veut, avec nos systèmes de valeurs.
C'est une offre marketing.
C'est une offre marketing, c'est un positionnement très clair.
Vous êtes d'accord avec ça quand on voyage entre célibataires, par exemple, est-ce que c'est pour faire des rencontres ou c'est pour ne pas se sentir différent?
Il y a quand même des dizaines de pays où l'homosexualité est interdite, pénalement répréhensible. Donc, c'est pas juste la question de savoir si on se retrouve dans un entre-soi qui serait uniquement lié à des pratiques sexuelles. C'est quand même aussi une question de sécurité d'aller dans des endroits où on risque pas de se retrouver en prison.
D'où le Gay Travel Index, d'ailleurs.
C'est un élément très important de savoir où on part pour pas être victime de discrimination, ou pire. Donc, c'est un peu particulier sur cette question-là, mais en fait, d'une manière plus générale, tourisme l'entre-soi. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir si dans l'histoire du départ en vacances et dans les villégiatures, il y a un tourisme qui n'est pas un tourisme de l'entre-soi. Enfin, c'est consubstantiel aux vacances, à la villégiature, à l'histoire de la manière dont se construisent les stations par les aristocrates anglais, la manière dont ils vont évincer...
Vous parlez des stations thermales
Les stations thermales anglaises dès le 17e, 18e, la façon dont les aristocrates vont évincer les bourgeois qui vont créer d'autres stations, et puis la popularisation de la villégiature et du tourisme qui va se répliquer, mais chaque fois d'entre-soi en entre-soi, avec des différences, par exemple, au 19e, entre les orléanistes à Trouville et les légitimiste à Dieppe. Enfin voilà, donc il y a des distinctions de classe au départ. Aristo,
donc,
bourgeois,
rien de nouveau sous le soleil pour vous.
Voilà. Et même les backpackers, quand on fait les études sur les backpackers, c'est des choses qui ont été faites depuis 50 ans.
Les gens qui voyageaient sac au dos, souvent.
Donc des gens qui font le tour de l'Asie sac au dos en stop, quand on regarde où ils s'arrêtent, dans quelles auberges jeunesse ou guest house, en fait ils se retrouvent entre nationalités, par classe d'âge. Voilà, donc.
Cyclistes, randonneurs, à pied, etc.
La différence, c'est peut-être la
aujourd'hui d'ailleurs.
Tout à fait. La différence, c'est peut-être la possibilité de le revendiquer. C'est-à-dire que même ceux qui partent, quelle que soit la motivation, vont se retrouver dans un entre-soi, volontairement ou pas. Après, la question de la, de la manière dont c'est revendiqué. Et c'est revendiqué, comme vous l'avez dit, M. Arnaud, aussi parce que c'est un tourisme qui est conçu dès le 19e pour une certaine catégorie sociale, dans un certain objectif. Mais quand on prend les vacances populaires, c'est pareil. Il y a des camps de vacances, des centres de vacances qui sont plutôt pour les gens de la CGT, d'autres plutôt pour les gens de la CFDT. Enfin, voilà, il y a des modes, le camping, on se retrouve parce que c'est aussi un moment où on a envie de reconstruire son identité familiale, c'est la reconstruction des forces de travail, puis c'est aussi de rencontrer des gens dans un autre contexte que celui du travail. Donc finalement, le fait qu'il y ait ce qui va être appelé des niches, c'est simplement la diversification de cet entre-soi qui, jusqu'à une date récente, en fait, il y avait un modèle. Voilà. Et ce modèle ne peut pas correspondre à tout le monde, que ce soit les chambres avec vue, que ce soit le type d'hébergement.
Donc finalement, vous êtes d'accord.
Oui.
Hein? Sauf que vous dites, Saskia Cousin, que ça a toujours existé. Mais alors, dans ce contexte, avec vos analyses, la chance de rencontrer l'autre, elle est, c'est vraiment, ça devient l'aventure. Elle est minime.
Bah, ça dépend de la définition que vous avez de l'altérité, enfin, de l'autre. Enfin, il y a des rencontres qui ont lieu, mais... ça veut dire que vous pensez que l'autre, c'est forcément quelqu'un qui n'aurait pas les mêmes pratiques religieuses ou pratiques...
Qui ne parle pas la même langue, pas la même culture, pas la même religion et qui n'a pas la même conception de la famille et de la vie.
Alors ça, c'est ça a lieu dans des gens qui se retrouvent par exemple du monde entier, dans un centre de vacances, mais en fait, il y a toujours un point commun qui va être, dans un cas, le niveau de revenu, ou le niveau d'éducation, ou la pratique choisi. Religieuse, ou le sport.
Oui, il y a quand même toujours eu aussi une minorité de gens qui étaient universalistes et qui voulaient découvrir, qui voulaient aller à la rencontre des populations. Donc c'est aussi un mode de vacances. La seule chose, c'est que ce modèle est minoritaire. Et même lorsqu'il y avait la volonté, alors quand on parle de classe sociale, c'était un peu l'ambition, c'était le rêve du Club Med à sa création, c'était que l'ouvrier puisse côtoyer le patron, que les employés, les gentils organisateurs puissent manger à la table, ouais. Et ils venaient de tout pays. Donc il y avait cette dimension qui était une dimension de rencontre de gens qui venaient d'univers différents. Il n'empêche qu'au sein même de ces villages de vacances, en l'occurrence du Club Med, le type de vacances, les pratiques étaient les mêmes, puisqu'il y avait des codes. C'est-à-dire à chaque fois, on recrée des codes qui sont des codes, même si les gens viennent de milieux différents, il y a des codes de tenue, d'animation, d'activité qui sont les mêmes. En revanche, on voit ce qui est devenu de plus en plus compliqué, c'est la forme, le rejet et la paranoïa vis-à-vis de populations de plus en plus fortes.
Et donc, une rencontre qui pourrait être désagréable.
Et une rencontre qui pourrait être désagréable. On le voit même dans certains pays où, quelles que soient les pratiques, on pouvait bien évidemment aller sur des plages, notamment au Moyen-Orient et au Proche-Orient. On pouvait être voilé, on pouvait être en maillot de bain, on pouvait être en bikini, on pouvait boire de l'alcool, on pouvait ne pas boire de l'alcool, etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, on le voit dans les réactions, que ce soit en Occident ou dans ces pays, parce que la personne qui est en burkini va être un peu stigmatisée, mais...
Et elle n'a pas forcément envie de bronzer à côté d'une fille qui a les seins à l'air.
Voilà, mais en revanche, il est vrai aussi que de notre côté, dans les pays arabes, c'est de plus en plus compliqué, parce qu'il peut y avoir aussi ce rejet qui était beaucoup moins fort. Il y a 50 ans, 80 ans qu'aujourd'hui. Quand on regarde les images en Égypte, des vacances en Égypte il y a 50 ans, on peut dire que le niveau de tolérance a bien baissé, et de la même façon que dans les pays, parce qu'il y a la peur, qui est une peur de l'autre, qui a tendance à augmenter et qui pose problème quand même. Et ça pose problème pour des vacances, pour la rencontre, et ça pose des problèmes parce qu'à force de s'enferrer dans des codes dans des difficultés de relation, on a de plus en plus de mal dans les vacances
On va en parler avec le tourisme halal dans quelques instants, justement, puisque Stacy Duclos, vous dirigez cette agence de voyage tourisme halal Travel Muse. Voyager, oui, mais finalement, chacun dans sa bulle, loin de chez moi, mais me sentir à l'aise comme à la maison. Alors, est-ce que c'est un repli sur soi ou plutôt une réponse à la montée des intolérances? Et vous, les voisins, est-ce que vous avez peur du regard de l'autre quand vous voyagez? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
On regarde. Dans cette brochure, je m'y vois déjà. Cocktail aux turquoises et plage privée. Un pied hors de l'Airbus, je me sens chez moi. Les yeux sur le paysage rivé. Un gosse m'offre un collier de fleurs. D'autres tendent simplement la main pour un bakchich. Je croise leur regard dans le rétroviseur. Mais je suis déjà loin dans mon taxi. Je ne parle aucun langage. Évite tout contact avec l'autochto. Rêve de voir la faune locale en cage. Excepté quelques Amazones. Bientôt le soleil tape, il fait trop chaud, trop humide. Et je me rappelle ses recommandations. Trop d'exposition au soleil accentue les rides. Alors je pousse ma climatisation. Je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste, je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Tu ne veux pas savoir que derrière ton parasol, finis les transats et que les gens d'ici risquent la tôle en foulant leur propre sol, la plus belle plage de leur petit pays. Tu ne veux pas savoir qu'à quelque part de ta piscine chlorée, l'eau n'est pas potable. Tu ne vois que ce qu'on te montre quelque part, et tout va bien sur tes cartes postales. Tu as souri tes vices loin de la paranoïa. Pour quelques billets sans te cacher, tu t'offres mes services et ceux de Nitaya.
Car ici la main d'œuvre est bon marché.
Tu es ce touriste. Assuré touriste, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste, tu es ce touriste. Assuré touriste, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Pour ce moment de détente que rien ne pourrait gâcher. J'ai bossé pendant 11 mois, alors j'enfile mes rébans à vision limitée. Celle qui efface le tiers-monde du panorama.
Tu dis que grâce à toi on vit mieux, et la plupart du temps tu n'y penses même pas. Jeune, vieux et parfois vicieux, tu te fous de quel âge on a.
De retour sur Paris, j'organise une soirée diapo, et je raconte un tas d'anecdotes. Là c'est moi et Pedro buvant du lait de coco. Promis, l'année prochaine on y va entre potes. Je suis ce touriste.
Hocus Pocus, touriste, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Voilà, Saskia Cousin qui prend les références de la programmation musicale de Romain Dubrac. On parle du tourisme. Un tourisme qui est de plus en plus segmenté, pour parler comme les marketeurs. C'est ce que vous nous disiez, Didier Arino. On voyage entre soi pour ne pas prendre le risque aussi d'être éventuellement dérangé par des remarques désobligeantes. C'est peut-être le cas pour le tourisme halal. Vous allez nous expliquer quelles sont les motivations, Stacy Duclos, de vos clients qui veulent une semaine de vacances dans un complexe hôtelier complètement halal. Mais évidemment, j'ai donné le numéro de téléphone du standard. Donc, on vous donne la parole, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71. 71, Hélène nous appelle de Libreville, la banlieue de Libreville, au Vendo. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, vous avez 45 ans et vous avez envie de donner votre point de vue sur la façon de voyager.
Ben oui, parce que moi je pense que c'est triste de voyager et déjà le fait qu'on voyage, on rencontre d'autres choses, les religions, les familles, et puis ça change. Bon, déjà le fait de voyager et ne pas aller s'ouvrir aux autres, ne pas rencontrer d'autres personnes.
Ouais. Et vous-même, comment vous voyagez, Hélène? Est-ce que vous avez l'opportunité, la chance de voyager d'ailleurs?
Oui, j'ai déjà eu l'opportunité de voyager, mais moi je trouve que c'est merveilleux. Au moins quand on rentre chez soi, c'est une façon de se cultiver en fait, en plus. On apprend des choses.
Et vous n'avez jamais peur du regard de l'autre sur le fait que vous êtes différente par définition? Je ne sais pas, à moins que vous voyagez dans des endroits très, très proches du Gabon. Je ne sais, où est-ce que vous voyagez?
Je suis déjà allée en Afrique centrale.
Oui.
J'ai dit en Afrique de l'Ouest, en Europe. J'ai fait au moins 3 pays en Europe. Mais généralement, moi, je ne pense pas trop à ça. Moi, je suis une Africaine. C'est vrai, je viens d'un marron, je ne suis pas blanche. Mais quand j'y vais, je n'ai même pas dans ma tête ce côté raciste. Mais on fait quand même attention. On se comporte bien. Mais ça cultive. Parce que je ne pense pas que si les gens ne s'ouvraient pas aux autres, ce ne serait pas bien. Parce que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est tellement triste. Si on comprenait les autres, on mangeait avec les autres, on était avec les autres, je crois que le monde serait différent.
Et votre meilleur souvenir de voyage, de rencontre de l'autre, vous en avez un là en tête, comme ça, qui vous vient peut-être un peu impromptu?
Déjà, quand je suis allée en Afrique de l'Ouest, déjà là-bas, moi, on est dans un pays où on est un peu raciste. Raciste, c'est une façon de dire. On n'aime pas l'autre, on n'aime pas l'étranger, on dit toujours l'étranger. Mais moi, quand je suis arrivée à Lomé, au Togo, je me suis rendu compte que les gens, ils étaient différents. Jamais j'ai entendu quelqu'un me dire « tu es une Gabonaise, tu es ceci, tu es cela ». En fait, ils te reçoivent, ils t'embrassent. La première des choses qu'ils te donnent quand tu arrives chez eux, c'est un verre d'eau. C'est vraiment un bonjour à l'africaine. Et c'est très bien, c'est comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Et quand je suis revenue au Gabon, j'ai eu un peu honte. Parce que je me suis dit que on est tout le temps en train de les minimiser. Mais ils sont différents de nous. Ils sont sociables, ils sont ouverts. Ils nous accueillent très bien. Ça ne sert à rien d'être méchant avec les autres, moi, je pense. Il faut apprendre à connaître les autres. En Espagne, c'était apprendre. Quand je suis allée en Espagne, j'ai appris un plat. Nous, on a une façon de cuisiner le poulet au sud à Pampelune. On a une façon de cuisiner le poulet. Et puis, j'ai vu des gens de petites fêtes qui font... Ils étaient habillés tout en rouge avec des chapeaux et tout. C'est différent de ce que je vois chez moi. Et je me rends compte que...
Vous n'auriez pas aimé aller dans un restaurant africain en Espagne? Ça ne vous aurait pas plu, ça?
Non. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller goûter les autres, ce que ont les autres. Et c'est pour voir s'enrichir un peu plus, moi,
bon,
je pense.
Merci. Et votre prochain voyage, là, est-ce que vous savez où ce sera, Hélène?
Non, là, c'est pas programmé, le prochain voyage. Bon. Ça, c'est pas maintenant.
Eh bien, très bonne journée. Très bonne journée à vous, Hélène, à Libreville, au Gabon. Merci beaucoup de nous avoir appelés sur cette thématique du voyage. Faut-il voyager entre soi pour avoir le moins de déconvenus possible, surtout quand le voyage coûte cher, les vacances, ou au contraire, laisser un peu plus d'aventure et puis de place à l'altérité. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et Eric nous appelle de région parisienne. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Vous voyagez seul, je crois?
Moi, j'ai une expérience. Alors évidemment, il m'est arrivé de voyager en groupe, avec des amis, mais mon témoignage, je voulais dire que je suis à l'opposé des idées reçues, en fait, de la montée des peurs et des peurs de l'autre lorsqu'on voyage. Moi, mon expérience, c'est chaque fois que j'ai voyagé seul, en fait, je me rends compte que il y a une ouverture aux autres. Pour peu que vous soyez curieux, ouvert aux autres et que vous n'ayez pas de préjugés, ça se passe bien, quoi. Ça se passe toujours bien. Et au contraire, le fait de voyager en couple ou à deux ou à trois, souvent, on a un effet de communauté. On se replie un peu sur soi et finalement, on est moins à l'ouverture des autres.
Vous êtes d'accord avec ça? Saskia Cousin?
Quand je voyage seul, je ne suis jamais seul, en fait.
C'est ça.
Je suis toujours à la rencontre des autres.
Saskia Cousin.
Et en fait, indépendamment de la langue, la maîtrise de la langue, un sourire, aller vers l'autre, se montrer curieux, s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser à la différence culturelle, à sa façon de manger, à sa façon de vivre. Et voilà, vous créez le contact, en fait, l'être humain, quel que soit l'endroit où il vit sur le globe, il a les mêmes aspirations. Une fois que vous avez compris ça, tout se passe bien.
Saskia Cousin.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je voudrais pas que, ce que j'ai dit précédemment, on pense que ça soit l'ensemble des quêtes ou des recherches en vacances. Mais effectivement, quand on est ouvert à l'autre, eh bien, l'autre vous accueille. Il y a aussi des pratiques d'hospitalité en Afrique de l'Ouest qui sont effectivement extraordinaires. Encore faut-il que les gens sortent, en fait. Mais on peut très bien aller dans un hôtel en famille et puis aller pratiquer par ailleurs. Mais effectivement, quand on est seul, ben, on est ouvert à la rencontre, à la découverte et puis aussi aux pratiques culinaires qui sont la commensalité. C'est un moment très important dans la découverte de la culture de quelqu'un d'autre, comme le disait Hélène. Donc, évidemment que c'est...
Restez en ligne avec nous, Eric. Je voudrais qu'on donne la parole à Stacy Duclos et que vous nous expliquiez surtout, puisque donc vous êtes directrice de l'agence de tourisme Halal Travel Muse. C'est une agence avec un site internet qui a démarré en 2014, qui connaît une croissance exponentielle. Vous avez multiplié par 3 vos clients et vos ventes entre 2017 et 2018. En quoi ça consiste exactement le tourisme halal?
Alors en fait, je dirais que déjà le terme de tourisme halal est plus donné pour que le voyageur musulman, en tout cas, s'y reconnaisse. Mais le terme, pour moi, plus approprié est tourisme muslim-friendly. Tout simplement parce
muslim-friendly,
que...
Hein, donc, muslim-friendly. Donc exactement la symétrie de ce qu'on appelle le tourisme gay-friendly.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu nuancée quand on parle d'un repli entre soi, du fait de ne pas rencontrer l'autre, parce que ce n'est pas la réalité du terrain. C'est-à-dire que nous, nos clients, quand ils viennent à l'agence...
Alors, dites-nous ce que vous leur proposez, c'est-à-dire donc nourriture 100% halal.
Alors en fait, ça va dépendre de la destination. C'est-à-dire que le concept de, on va dire 100% halal, ça va être plus en Turquie. Vous allez avoir des hôtels clubs sans alcool, ouais, avec piscine pour femmes, des salles de prière, des salles pour faire ses ablutions, le sens de la Mecque qui est donné pour prier. Donc en fait, ça va plus convenir à des familles dans la mesure où les familles, effectivement, quand elles sont avec leurs enfants, elles veulent avoir des toboggans, enfin, tout ce que les familles souhaitent. Et la problématique que rencontrent les mamans voilées, en tout cas quand elles voyagent, même parfois dans leur pays d'origine, notamment au Maroc, on les sort de la piscine parce qu'elles sont en burkini. Et c'est difficile à vivre quand l'enfant voit sa mère, sa mère ne peut pas assister, ne peut pas jouer avec lui parce qu'elle porte un burkini, parce qu'elle est différente. C'est assez compliqué. Donc là, pour le coup, on va dire quand on est en hôtel club en Turquie, effectivement, souvent c'est entre musulmans, mais ce n'est pas forcément choisi, puisqu'on a même des clients, j'ai le souvenir d'un client qui part bientôt en Turquie d'ailleurs, qui est converti, et sa mère non musulmane a complètement adoré le concept. Et elle part en vacances avec lui. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'elle a adoré comme concept?
Le concept de piscine pour femmes.
D'accord.
Vraiment, de se dire, voilà, je ne vais pas me faire harceler, embêter.
Quand vous dites qu'au Maroc, vous avez des mamans dont c'est le pays d'origine qui se font sortir de la piscine parce qu'elles sont en burkini, c'est le cas de tous les hôtels avec piscine au Maroc?
De nombreux hôtels. C'est-à-dire que en Tunisie, on a eu les mêmes remarques. Alors, ce n'est pas des hôtels qu'on vend justement, mais en fait, quand on parle avec elles nous disent, voilà, par exemple, il y a un seul hôtel. Pour le moment à Marrakech, qui propose de la piscine pour femmes. C'est l'hôtel Vizir Center Park. Et voilà, elles nous disent, voilà, je préfère aller dans cet hôtel-là, parce que j'ai déjà eu plusieurs expériences au Maroc, où on m'a dit, voilà, tu n'es pas la bienvenue.
À l'inverse, des touristes européennes vont dire que sur des plages publiques au Maroc, si elles sont en maillot de bain, elles se sentent mal à l'aise. Et ça aussi, c'est une tendance qui est nouvelle. Les séjours qui cartonnent sur votre site, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vendez le plus?
Eh ben, ce qu'on vend le plus, c'est Bali.
Donc qui Bali, n'est précisément pas musulman.
Hindouiste, grande majorité hindoue. Tout à fait. Du coup, c'est pour ça, voilà, on ne peut pas parler de repli de soi. Quand la plupart des clients cherchent à aller à Bali, qui est aux antipodes de l'islam. Donc certes, ils vont en Indonésie, mais Bali...
Alors à Bali, qu'est-ce qu'on leur propose? Donc c'est un hôtel qui est mêmes offres?
Même pas, c'est-à-dire que ça va être des villas avec piscine privée, sans vis-à-vis. Donc en hôtel, classique.
C'est la seule spécificité qu'on va leur proposer à
Exactement.
Bali.
Exactement.
C'est-à-dire que sinon, il n'y a pas de nourriture halal
Alors dans les hôtels, ça va dépendre. C'est-à-dire que on va parler avec des hôteliers. Ils ont une facilité à trouver la nourriture halal. Donc à ce niveau-là, c'est pas gênant.
Donc vous essayez quand même de coller aux attentes. Pas seulement la piscine sans vis-à-vis.
On essaye, mais c'est pas forcément demandé tout le temps dans la mesure où dans ces offres-là, seul le petit déjeuner, en général, est proposé, parce qu'on est en Asie, donc on peut manger très facilement à des prix dérisoires. Donc les gens ne restent pas dans leur villa. Ouais. C'est-à-dire faire plus de presque 20 heures d'avion pour rester dans sa villa, autant aller au Maroc, qui est à 3 heures.
À quelles aspirations profondes ça répond? C'est-à-dire, si on regarde votre cible, c'est qui?
Donc ce sont les jeunes. entre 20 et 35-40 ans. Ouais. Principalement, il va y avoir des familles, on a beaucoup de couples ou des amis, donc des jeunes, hein, la génération française, qui veut partir à la rencontre de l'autre.
Pourquoi pas des clients musulmans de 50 ans et plus ?
Parce que le voyage n'est pas encore très démocratisé parmi les personnes de cet âge-là. En général, quand on voyage, c'est pour retourner voir sa famille. Ce n'est pas pour justement aller à la découverte de l'autre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas forcément que chez les musulmans. Voilà, il y a un petit peu une peur. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment l'inconnu.
Vos clients musulmans vivent en France,
oui,
hein, pour la plupart.
Oui, on en a en Belgique.
Donc ils constituent une minorité en France. Oui. Est-ce qu'ils aspirent à voyager dans un pays où précisément ils ne constituent pas la minorité, pour ceux qui ne vont pas à Bali?
Ça peut arriver, mais c'est pas une demande qui est non plus très présente. Par exemple, pour vous dire là, c'est quelque chose qu'on a eu tellement de demandes à ce niveau-là qu'on s'est dit qu'on allait travailler sur l'offre. On avait depuis 2 ans beaucoup de demandes sur les Philippines. Philippines, pour trouver la nourriture halal, c'est compliqué quand même. Et les gens, les musulmans, veulent aller aux Philippines. Pourquoi ? La découverte de l'autre, les paysages juste sublimes, aller en terre inconnue et sortir des sentiers battus tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est une conversation qu'on a avec pas mal de clients. On se dit que voilà, la France, c'est notre pays, qui est magnifique. Hein. Je ne sais pas, on compare les Vosges, le Var, ça n'a juste rien à voir et on a tout type de paysages. Mais dans notre propre pays, on ne se sent pas libre, accepté. À titre personnel, je me suis déjà fait virer d'une plage. Alors que j'y allais, je me souriais à tout le monde, etc.
Parce et que vous étiez...
J'étais en burkini. Ouais. Et le maître nageur m'a appelé en me disant « Je suis désolée pour vous, mais vous dérangez les gens sur cette plage. » Ils m'ont tous appelé, ils ont appelé la police en disant que je les dérangeais. Pourtant, je pense que j'étais pas dans un repli de soi, mais que j'allais vers l'autre.
Ouais. Alors, il y a aussi comme ça des vacances cachères, hein, pour les touristes juifs, où c'est compliqué de voyager quand on mange cachère. Il y a avec des offres préférentielles pendant les fêtes juives. Les prix, plus on voyage entre soi, plus c'est cher ou pas ?
Sur les hôtels clubs en Turquie, effectivement, ça va être beaucoup plus cher
qu'un hôtel club lambda.
Ouais.
Souvent, faut être clair, c'est souvent un business.
Ouais.
C'est-à-dire, forcément, on vend plus cher la spécificité, et donc c'est une opportunité. Quand on voit le développement du tourisme en Turquie, et notamment du tourisme halal, c'était une façon pour la Turquie d'abord de diversifier ses clientèles, après une crise qui était une crise de la baisse du tourisme, et ils ont vu une opportunité...
À cause de la guerre en Syrie.
À cause de la guerre en Syrie, ils ont vu une opportunité de business. Donc on habille tout cela en s'adaptant aux attentes des clientèles.
Ouais, le touriste français musulman, lui, n'a pas peur d'aller en Turquie.
Alors non, parfois, quelques clients vont nous poser la question, est-ce que je ne vais pas me faire arrêter parce que je vais en Turquie, etc. Ça arrive, mais en fait non, ils n'ont pas peur de partir.
Donc aujourd'hui, finalement, c'est le prix à payer pour voyager dans un plus grand confort ?
Bah, ça dépend ce qu'on entend confort. En tout cas, en étant dans sa zone de confort.
Le confort au sens américain du terme.
Oui, c'est-à-dire dans sa zone de confort. De la même façon que on va avoir des Américains qui veulent avoir leur hamburger, leur bière Budweiser. On va avoir Alors, il y a toujours une revendication. Et derrière la revendication, il y a le fait souvent que les différents touristes pensent que eux sont dans le bon modèle. Et par conséquent, ils veulent passer...
Mes vacances sont les plus belles.
Ouais, mes vacances sont les plus belles. Vous savez, il y a une évolution dans quelles que soient les origines, mais en tout cas, dès que les gens ont un certain niveau de vie, les vacances, on a le droit de tout rater dans sa vie, sauf ses vacances. Ouais. Donc quand on revient, on ne peut pas dire j'ai passé de mauvaises vacances.
On va demander le point de vue de cet auditeur qui nous appelait de Paris, Eric, qui voyage tout seul. Eric, vous êtes toujours en ligne avec nous ?
Oui, tout à fait.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez de ce développement de ces tourismes ? On ne peut pas parler de tourisme religieux, parce que le tourisme religieux, ce serait plutôt d'aller à la Mecque, d'aller à Lourdes. Mais de ce tourisme, en tout cas, fondé sur des appartenances.
Bah écoutez, moi je respecte, hein, j'entends maintenant, il y a des... Mais je respecte, mais je ne cautionne pas, je dirais. Quand j'entends « zone de confort », ses habitudes, Partir en communauté, pour moi, on est juste à l'opposé. Enfin, on peut pas parler de ça d'un côté et de découverte et de curiosité de l'autre.
Oui, il faut parler juste
donné,
de vacances, de repos.
Le touriste américain qui ne jure que par son hamburger et sa Budweiser, s'il part aux Philippines et qu'il mange pas philippin, par exemple, je pense qu'il a raté quelque chose. Mais c'est mon point de vue. Donc,
merci en tout cas de nous avoir appelé pour nous faire partager votre vision du voyage et de la rencontre avec l'autre. Et bien sûr, vous continuez à nous appeler 33 1 84 22 71 71. Dites-nous comment vous aimez voyager, si ce voyage entre soi, c'est plutôt un repli ou une réponse à la montée des intolérances. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Jean-Jacques est également à Libreville et nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour madame.
Vous avez beaucoup voyagé.
Oui, j'ai beaucoup voyagé.
Oui.
Et... le voyage, vous savez, ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et donc, ça apporte beaucoup à votre culture. Le repli sur soi n'apporte rien. Aujourd'hui, nous avons évolué, nous sommes dans l'ère du numérique et donc on est en contact de tout le monde. Donc, ce serait bien. Le voyage doit être...
d'être en contact avec tout le monde pour de vrai, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que nos auditeurs qui nous appellent aujourd'hui sont, ne le prenez pas mal, hein, Jean-Jacques, mais sont plus âgés que d'habitude. Alors on peut se poser la question si finalement les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas, Saskia Cousin, sont aussi intéressés par des voyages, des vacances avec des gens très différents de soi.
Non mais en fait je crois qu'il y a deux choses, c'est pas parce qu'on va dans un hôtel ou dans un hébergement, parce qu'il y a aussi beaucoup de locations de vacances où on souhaite des normes de confort comme les Occidentaux veulent pouvoir prendre des douches, avoir de l'eau chaude, etc. Donc des normes de confort et de sécurité qui leur conviennent, ça n'empêche pas par ailleurs de sortir, d'aller découvrir la culture locale. Donc c'est pas parce qu'on veut, en fait il faut distinguer le lieu d'hébergement avec des normes de confort et notamment justement ce dont parlait tout à l'heure, la question de la terrasse ou sans vis-à-vis, et c'est pas pour ça qu'on va forcément s'enfermer dans un entre-soi. Après il y a des catégories sociales qui ont voyagé depuis toujours, d'abord occidentales et puis mondiales. Là aussi, c'est des générations plus jeunes, il y a une appétence pour le voyage qui va en fait être plus large que certaines catégories sociales et qui vont avoir des attentes. Ça ne veut pas dire que leurs aînés n'avaient pas ces attentes, mais peut-être qu'ils n'osaient pas les revendiquer, peut-être qu'il n'y avait pas le marché qui s'en était saisi. Et c'est pas pour ça que, enfin, ça fait des années que les gens vont chercher des endroits pour louer des maisons dans certains contextes, pour partir avec des gens qui ne vont pas les discriminer. Simplement, le marché, donc le marketing, donc le concept, ne s'était pas saisi de la chose. Mais il y a toujours eu des gens qui avaient ces pratiques.
Là, il se saisit de tout, le marché. Il y a donc le tourisme pour les véganes, où on a des voyages organisés avec de la nourriture et des cosmétiques véganes qui n'utilisent pas donc de produits animaux. C'est de plus en plus ciblé.
C'est de plus en plus ciblé. Et il y a toujours le pendant. C'est très intéressant parce que on voit que quand le développement et le fait qu'on soit dans une société, notamment dans les sociétés occidentales où on mange de plus en plus de viande, il y a eu un phénomène qui est un phénomène à l'inverse, qui est le phénomène vegan. De la même façon que le fait qu'on se couvre de plus en plus, regardez sur les plages, il y a de moins en moins de monokini par exemple, il y a de plus en plus, y compris dans la société occidentale, et ben derrière il y a un développement du naturisme aujourd'hui.
Et donc plus d'un côté... c'est un tourisme de niche qui aurait tendance à se développer.
Alors, c'est un tourisme de niche qui se développe. La France est d'ailleurs le premier pays du naturisme, et quand on voit les chiffres du naturisme, notamment France 4 Naturisme, bénéficie d'une très forte progression. Et en même temps, les arguments sont les mêmes. C'est-à-dire que souvent, on dit on n'a pas envie d'être regardé sur la plage quand on est le plus habillé possible. Mais le pendant, c'est que quand tous les gens sont nus, les gens ne se regardent pas non plus. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de vérité en tant que telle.
Une question d'un auditeur, Mehdi, qui est à Casablanca, qui a 34 ans. On ne l'a pas au téléphone, hein, je crois. Non, si, on l'a au téléphone ? Ah bah oui, alors on va le prendre. Bonjour Mehdi. Mehdi, vous êtes en ligne avec nous en direct chez 7 milliards de voisins. Est-ce que vous êtes bien là, Mehdi ?
Ah, je suis très bien. Parfait.
Ouais. Eh ben super, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes à Casa, au Maroc. Oui. Vous avez 34 ans et vous avez une question ou un questionnement plutôt sur le tourisme halal.
Bah, c'est pas vraiment un questionnement sur le tourisme halal parce que moi personnellement je suis athée, donc l'halal c'est à des années-lumière de moi. Dernièrement, j'ai arrêté tout ce qui était alcool, tout ce qui était drogue douce et ce genre de choses parce que bon, c'est pour des raisons de bien-être et de santé.
Ouais.
Et je me suis rendu compte que je n'étais plus attiré par des endroits où ça consommait ce genre de produits. Donc le halal, j'ai bien compris que ce n'était pas stricto sensu halal, mais bon, ce genre d'endroit, justement, il n'y a pas ça. Par contre, je suis toujours pour la rencontre de l'autre, ouais. Pour
Donc du coup, vous vous demandez si vous pourriez trouver votre place, indépendamment de toute motivation religieuse, dans les hôtels halal vendus par le site Travelmuse.
Par exemple, oui, est-ce que c'est possible?
Ah bah, c'est totalement possible, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la maman d'un client nous qui est converti, qui n'est pas du tout musulmane, donc, et en plus, qui n'a aucune attache à la culture dite musulmane, ou maghrébine, ou africaine, et qui est intéressée par le concept. Donc, c'est de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Alors bien évidemment, quand elles iront dans ce type d'hôtel, il ne faut pas qu'elles s'offusquent si elles voient des femmes voilées ou ce type de choses. Mais je ne vois pas en quoi c'est incompatible. Et surtout que même en islam, il y a plusieurs pratiques de la religion. Du coup, ben, en fait, entre deux musulmans, ben, ce ne sera pas forcément... c'est-à-dire que ce sera aussi une rencontre de l'autre, entre les deux.
Mehdi, vous avez une réponse à votre question? Hein,
oui, j'ai une réponse. Moi, c'est c'est très bien d'aller à ce genre d'endroit. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où, par exemple, la mixité n'est pas.
Ah oui, non. Non, là, si c'est la rencontre à la piscine enfin, plutôt... de l'autre sexe, c'est raté là.
Ah bah non. Hein, eh ben, figurez-vous qu'il y a des, il y a des hôtels.
Voilà,
en fait, c'est-à-dire qu'il y a des hôtels. N'oublions pas qu'il y a des familles, donc avec un couple, le papa et la maman. Et l'enfant.
Allez. D'accord. Mais si Mehdi est célibataire, est-ce qu'il peut avoir accès à ces piscines où il n'y aura que des familles, par exemple?
Oui.
Oui,
oui. C'est-à-dire, j'ai déjà eu des hommes qui voyagent, là, un qui part aussi d'ailleurs bientôt, il part 15 jours en hôtel club seul, dans un
D'accord.
hôtel où il y a de la piscine
et
pour femmes.
Pour les femmes qui ne voudraient pas risquer de rencontrer Mehdi, elles vont à la piscine entre femmes. C'est ça.
Donc en fait, de toute façon, ils vont se croiser. Ça, c'est certain, ils vont se croiser dans les couloirs de l'hôtel.
Tout n'est pas perdu, Mehdi.
Mais je veux dire qu'en termes de. Après, quand elles vont se baigner, ou quand elles vont, par exemple, il y a des salles de sport pour femmes, etc., des salons de coiffure pour femmes, là, oui, elles ne vont pas voir Mehdi. Mais autrement, dans les couloirs, dans le restaurant de l'hôtel, c'est pas séparé hommes et femmes.
Merci en tout cas de nous avoir appelé Mehdi. Je suis désolée,
hein.
On ne peut pas prendre tout le monde, mais on avait pas mal d'auditeurs qui souhaitaient intervenir. Je vous remercie en tout cas à tous les trois, Didier Arino du cabinet Pro Tourisme, Stacy Duclos donc du site de tourisme Halal Travelmuse et Saskia Cousin, anthropologue, Université Paris Descartes. Dans quelques instants, quelles conditions de travail pour les migrants au Qatar? Là, c'est pas vraiment les vacances, c'est un sujet sérieux.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Nous sommes en ligne avec Sabine Gagné d'Amnesty International France. Bonjour Sabine Gagné.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer, sur la question des entreprises et des droits humains. Amnesty vient de rendre public cette semaine un rapport sur les manquements du groupe de construction Mercury MENA, qui construit des infrastructures, bien sûr pour la Coupe du Monde de 2022. Pourquoi avoir choisi de cibler une entreprise en particulier ?
Alors aujourd'hui, on révèle un nouveau cas d'exploitation des travailleurs migrants au Qatar. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un rapport sur le sujet. Aujourd'hui, on a ciblé une entreprise en particulier parce que ces manquements sont grands et les conséquences, surtout les conséquences humaines pour ces travailleurs migrants, sont très importantes. On a interviewé 78 ex-employés de Mercury MENA qui venaient d'Inde, du Népal et des Philippines. Et l'entreprise leur doit des sommes importantes puisque en moyenne, elle leur doit à peu près $2000 chacun.
Quelles sont en gros les principales atteintes aux droits humains dans cette entreprise ?
Eh bien, ce sont des travailleurs qui n'ont pas été payés ou qui ont subi des retards de salaire. Donc, les conséquences, elles sont très pratiques. C'est des gens qui ont eu, tout simplement eu du mal à s'acheter à manger, qui se sont retrouvés bloqués dans les camps de travailleurs. Souvent, c'est des gens qui, en plus, se sont fortement endettés pour venir travailler au Qatar. Et puis, l'entreprise ne leur a pas fourni les documents légaux que, normalement, elle doit leur donner pour circuler librement au Qatar. Donc, elle ne leur a pas donné de permis de séjour. Et si les travailleurs ne détiennent pas ces permis de séjour, eh bien, ils peuvent être arrêtés par la police et avoir des amendes importantes et être considérés comme étant en fuite.
Alors, en 2017, le gouvernement du Qatar avait annoncé un programme de réforme du droit du travail. Parmi ces réformes, il y avait notamment l'abolition du permis de sortie du territoire pour les travailleurs migrants, la kafala. Comment ça se passe aujourd'hui? Quelles sont les avancées ou pas?
Alors, il y a des avancées dans le droit du travail au Qatar, puisque depuis septembre 2018, donc c'était le début de ce mois, eh bien, il y a eu une annonce importante, puisque le système de kafala, c'est un système de parrainage qui oblige tout travailleur à avoir un parrain qatarien. Mais, et ça impose aux travailleurs de demander l'autorisation pour sortir du territoire. Donc, pour quitter le Qatar, il faut demander l'autorisation à son employeur et aussi pour changer d'emploi. Depuis septembre 2018, ce qui change, c'est que l'employeur n'a plus l'autorisation à donner pour quitter le Qatar. Mais en revanche, l'employé doit toujours obtenir l'autorisation de son employeur pour changer d'emploi.
Donc,
ce qu'on a constaté dans notre rapport, c'est que l'entreprise Mercury Mina a abusé de ce système de la kafala, puisqu'en fait, les travailleurs se sont retrouvés bloqués lorsqu'ils demandaient à quitter le Qatar. En fait, l'entreprise leur a refusé. Et compte tenu de la situation d'endettement dans laquelle ils étaient, ils se sont retrouvés contraints à rester travailler pour cette entreprise.
Qui détient concrètement le passeport d'un travailleur aujourd'hui quand on travaille dans une entreprise comme Mercury Mina?
Alors, depuis une précédente réforme, depuis 2016, il y a eu un flou juridique qui est maintenu au Qatar, c'est-à-dire que l'entreprise peut détenir le passeport de son employé sous réserve que l'employé lui ait remis une petite note écrite en disant qu'il autorise l'entreprise à détenir son passeport. Mais quand on connaît les rapports de force entre employés et employeurs au Qatar, obtenir ce papier d'un travailleur, c'est extrêmement facile et ça veut pas dire qu'il est d'accord pour que l'entreprise détienne son passeport.
Donc compliqué de quitter le territoire, compliqué d'aller travailler chez un autre employeur qui éventuellement verserait un meilleur salaire ou un salaire tout court. On a 2 millions de travailleurs migrants au Qatar. Évidemment, parmi ces 2 millions, il y a aussi des expatriés qui ont des très bonnes conditions salariales et de travail, mais beaucoup de travailleurs d'Asie du Sud-Est, des Philippines, du Népal, du Nigeria. Que doit faire le Qatar aujourd'hui pour être présentable pour la Coupe du Monde 2022, Sabine Gasly?
Les réformes du droit du travail, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne s'appliquent pas non plus aux travailleurs domestiques. Parce que donc, quand on parle des 2 millions de travailleurs migrants au Qatar, beaucoup ont des conditions confortables, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi beaucoup de travailleurs qui travaillent sur les chantiers de la Coupe du Monde, hein, parce que ça a créé un boost de construction assez important pour les stades et pour les constructions alentours. Mais il y a aussi donc à peu près une centaine de milliers de travailleurs domestiques auxquels ne s'applique pas cette réforme de droit du travail. Donc le Qatar doit encore énormément progresser pour pouvoir vraiment faire une réforme de droit du travail complète, pour abolir complètement le système de kafala et pour qu'il s'applique à tous les domaines de travail, y compris les travailleurs domestiques.
Et vous continuez bien sûr de maintenir la pression. Merci beaucoup Sabine Gagné d'Amnesty International France. Merci à vous tous qui appelez notre standard chaque jour. Merci à toute l'équipe. Demain on parle éducation comme chaque vendredi. Que dire et ne pas dire à nos enfants, en finir avec les petites phrases assassines et trouver les mots justes. Ça parle à tout le monde.